Bonjour Michel Perrault.
Bonjour Caroline Brouet.
Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de faire paraître Le chemin des femmes. C'est le titre de cette somme qui est apparue dans la collection Bouquins chez Robert Laffont et qui réunit un certain nombre de textes qui touchent à l'histoire sociale, l'histoire des marges, l'histoire des femmes et du genre sur lesquels vous travaillez depuis toujours puisque vous êtes une mondialement reconnue pour l'histoire des ouvriers, des prisons et des femmes. On peut citer parmi les livres les plus importants que vous avez signés, l'histoire des femmes en Occident, sous la direction de vous et de Georges Duby en 5 volumes, les ombres de l'histoire, crimes et châtiments au 19e siècle, les femmes ou les silences de l'histoire, ou encore l'un des derniers, paru en 2012, Mélancolie ouvrière, qu'on peut lire en intégralité dans ce gros livre paru en bouquin. Cet après-midi, vous l'entendiez dans le journal, donc à l'initiative du collectif Nous Toutes, des marches contre les violences sexistes et sexuelles sont organisées dans une 50aine de villes en France. Vous disiez que vous attendiez de l'État qu'il agisse un peu plus à la fin de ce Grenelle contre les violences conjugales qui sera fini donc lundi et dont les annonces seront rendues ce jour même. Est-ce que vous irez manifester cet après-midi, Michel?
Il n'est pas sûr que je puisse y aller, malheureusement, mais si je peu, enfin, j'y vais, bien sûr.
Est-ce que c'est important, ce genre de mobilisation?
Oui, c'est important. C'est important, le nombre est important, la parole qui est portée en même temps est très importante. Bien sûr, si les femmes ne se manifestent pas, ne disent pas, le silence sera éternel.
Pour la pionnière de l'histoire des femmes et du genre que vous êtes, est-ce que ce type de mobilisation est inédit? Je crois pas, parce que dans le journal, vous disiez que ça vous rappelait des années très anciennes.
Les très anciennes années, 70. Entre 70 et 75, 76, il y avait des manifestations, pas tous les jours, mais enfin très très fréquentes. Surtout pour le droit à l'avortement. Il y avait déjà une loi qui autorisait la contraception en 67, mais elle était très peu pratiquée dans les pharmacies. C'était très difficile, mais le droit à l'avortement n'était pas reconnu. Les manifestations furent très, très importantes à ce moment-là. Et elles réunissaient pour la première fois peut-être des femmes de classes sociales différentes. On disait toujours que les féministes étaient bourgeoises. Eh bien là, il y avait un retentissement populaire, d'autant plus que les femmes qui n'avaient pas accès à l'avortement étaient surtout des femmes de classe populaire. Et par conséquent, oui, là, il y avait eu des manifestations extrêmement importantes. Je me souviens des procès. Le procès de Bobigny avec Gisèle Halimi pour une jeune femme qui était condamnée parce qu'elle s'était fait avorter, notamment les personnes qui l'avaient aidée pour cela. Il y a eu en 78 à Aix-Marseille le procès à propos du viol de 2 jeunes femmes par 3 hommes. Qui a abouti 2 ans après à la loi reconnaissant le viol comme crime et non plus comme un simple coup et blessure. Autrement dit, il y a une longue histoire de la lutte des femmes pour la reconnaissance de leur corps et de leurs droits, des droits du corps. Notre corps, nous-mêmes, disait-elle. C'était le mot d'ordre du MLF. Un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Et après ces années-là, qui étaient surtout axées là-dessus, il y a eu beaucoup de choses contre les violences au travail. On a commencé, il y a une association qui s'est formée là-dessus et qui insistait là-dessus, surtout sur les violences au travail. Et ce qui est intéressant dans ce qui se passe depuis quelques années, car c'est pas aujourd'hui, ça fait déjà quelques années, c'est que c'est la sphère intime maintenant qui est sur le devant de la scène. C'est-à-dire ces choses qu'on n'osait pas dire parce que c'était au fond le monde du pouvoir de l'homme. Et qu'une femme n'ose pas dire ces choses-là. Elle a l'impression d'être coupable elle-même.
Vous l'écriviez déjà dans Mon histoire des femmes en 2006. Agir dans l'espace public n'est pas aisé pour les femmes vouées au privé, critiquées dès qu'elles se montrent ou parlent trop fort. Alors quand en plus on parle de la sphère intime dans l'espace public, c'est encore plus important.
Oui, c'est comme une espèce de sacrilège en quelque sorte. C'est pourquoi les femmes ont tellement de mal à porter plainte, on le disait déjà tout à l'heure. Adèle Haenel le dit elle-même, elle qui vient de jouer un rôle très important. pourquoi ne porte-t-elle pas plainte? Parce que, dit-elle, ça n'aboutit jamais. Elle a probablement tort de dire cela. Mais enfin, c'est comme ça que c'est vécu, ressenti. Et effectivement, souvent, on voit que ça traîne indéfiniment, que des femmes qui portent plainte restent en danger dans leur foyer, alors qu'elles disent qu'elles sont menacées. Donc, je crois en effet que tout ce qui se passe maintenant est très très important. Hein, et que la solidarité des femmes et des hommes, bien sûr, hein, avec ce mouvement, me paraît quelque chose d'essentiel.
Ça ne vous gêne pas, de ce point de vue-là, que le collectif s'appelle « Nous toutes », Michel Perrault ?
C'est normal.
Parce que vous dites qu'il faut que les hommes prennent part
mais
à ce combat.
C'est, « Nous toutes », c'est quand même aux femmes de prendre leur sort en main, de le dire, hein, mais... Des hommes féministes, il y en a toujours eu, et je pense qu'il y en a de plus en plus, et que j'imagine qu'il y en aura avec les femmes aujourd'hui, et que ça les gêne pas particulièrement de dire « nous toutes ». Très souvent, nous, les femmes, on a manifesté en disant « nous tous ».
Michel Perrault, dans deux jours, le gouvernement rendra ses conclusions du Grenelle des violences conjugales. Au-delà du rôle de l'État que vous appelez de vos voeux, de quel œil regardez-vous ce genre d'initiative du Grenelle des violences conjugales? C'est une prise en main par l'État de choses importantes dans la société, ou bien ce sont des discours et des postures et puis on passe à autre chose?
Alors j'espère que ça n'est pas une prise en main, mais une prise en charge. Et là, le rôle de l'État est très important. Quand jadis, sous la Révolution française, Sieyès avait refusé le droit de vote aux femmes, il disait « elles ont droit à la protection de leur personne et de leurs biens », enfin, en l'occurrence, de leur personne. Donc oui, la personne est très importante, et dans l'État, elle doit avoir la protection de sa vie, et elle ne l'a pas aujourd'hui, c'est ça qui est important.
À partir de quand l'autorité publique, voire la loi française, s'est-elle intéressée aux violences faites aux femmes, Michel Perrault?
Elle a commencé autour de la maternité. Quand on a commencé à parler de la protection de la maternité, souvent pour des raisons natalistes, hein, il fallait protéger le ventre des femmes, ça remonte à la fin du 19e, début 20e. Mais c'était toujours dans ce but de faire des enfants. Les violences proprement dites aux femmes, c'est récent parce que Georges Vigarello, qui a écrit une histoire du viol, par exemple, montre combien c'était difficile la prise en compte du viol et la reconnaissance d'une femme qui porte plainte pour viol. Elle est consentante, c'est évident, elle a eu du plaisir même, probablement. Hein. Donc ça empêchait les femmes de porter plainte. Et l'État était complice, au fond, complice inconscient probablement de cela, puisque le viol c'était des coups et blessures, et que le crime passionnel des hommes sur les femmes, les hommes étaient toujours relâchés. Hein, toujours. Il y avait toujours une excuse qui était la passion, et soi-disant la passion, et par conséquent, c'était tout à fait normal qu'il tue une femme si elle aurait été soi-disant infidèle, ou même qu'elle ne faisait pas ce qu'il voulait. Hein. Donc c'est récent. C'est, je dirais, dans les dernières années.
Dans les 20 dernières années. Michel Perrault, vous disiez tout à l'heure que cette importance des manifestations du Grenelle, justement, des violences conjugales, montrait sans doute une prise de conscience. Alors, une prise de conscience de la société, une prise de conscience aussi des plus hautes autorités de l'État, et en l'occurrence, en la personne de Marlène Schiappa, qui s'est emparée de ces questions de façon très, très forte, hein. Et elle le dit encore, un entretien qu'elle accorde à l'hebdomadaire Le Elle, où elle rend déjà quelques conclusions publiques. Est-ce que pour vous, cette prise de conscience, elle est, pour le dire autrement, elle est de quel ordre, cette prise de conscience? Quand vous dites que ça marque une prise de conscience, c'est une prise de conscience de quoi exactement, ce qui se passe aujourd'hui?
Une prise de conscience que les femmes sont des victimes, mais je dirais tout de suite que ça ne suffit pas.
Et puis certaines ne veulent pas être
voilà. Et j'allais ajouter,
réduites à cette fonction ou à ce statut
d'ailleurs,
victime.
Moi non plus. Je pense que les femmes ne sont pas que des victimes. Et il faut faire attention justement qu'elles ne soient pas vues comme cela. Parce que ce serait dépréciatif d'une certaine manière. Ce qu'il faut, c'est analyser pourquoi c'est comme ça. Et par conséquent, la fameuse question qui devient fameuse maintenant, mais que les femmes auxquelles elles ont réfléchi déjà, la fameuse domination masculine. Dans les années 70, on disait patriarcat. Aux États-Unis, on dit continue à dire beaucoup patriarcat. Mais en France, on dit maintenant plus domination masculine. Et je pense aux très importants travaux qui date de maintenant de presque 20 ans, de Françoise Héritier. Hein, masculin, féminin, la pensée de la différence, masculin, féminin, dissoudre la hiérarchie. Et là, on prend conscience qu'en effet, depuis probablement les origines des temps, hein, bon, et dans tous les pays, il y a homme plus, femme moins, cette fameuse valence différentielle des sexes qui fait que les hommes ont raison, les hommes ont le pouvoir, et que c'est normal. Et que c'est normal, et que, par conséquent, ce pouvoir peut s'exercer, y compris par des moyens violents. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que, dans la société du 19e ou du 20e siècle encore, il était normal, presque, qu'un homme batte sa femme. Si elle ne marche pas droit, eh bien, il la remet dans le droit chemin, à condition qu'il n'aille quand même pas trop fort, disait-on.
Donc les violences seraient un symptôme de cette domination voilà. masculine, plus qu'un dérèglement.
Exactement.
Ah, vraiment
exactement.
Quelque chose qui est entièrement lié.
C'est lié à la domination masculine et naturellement, tuer une femme, c'est plus normal quand même, c'est pas normal. C'est un espèce de dérèglement de ce qui est admis et qui va tellement loin que ça finit par ne plus devenir acceptable. Mais enfin, c'est lié. C'est lié, absolument. Et c'est ça qui est effectivement très, dont il faut prendre conscience. C'est très, très important.
Michel Perrault, vous citiez l'anthropologue Françoise Héritier dans Dissoudre la hiérarchie, le tome 2 de Masculin-Féminin. Elle écrivait, le futur grand combat qui devra être mené doit porter non seulement sur le partage réel de tâches domestiques et parentales, mais aussi sur l'éducation et la culture transmise à nos enfants qui justifie l'inégalité en ces domaines jusqu'ici. D'où ma question, puisque les marches, puisque ce sera dans 50 villes de France cet après-midi, sont faites pour demander notamment plus de moyens, des moyens supplémentaires et plus d'action gouvernementale. Est-ce que cette action gouvernementale ne devrait pas aussi et surtout passer par l'école ?
Absolument. L'école est centrale. Les choses se jouent très tôt. Carol Gilligan, qui est une féministe américaine importante, qui était en France.
J'ai discuté avec elle dans l'Obs cette semaine.
Oui, absolument. a publié un livre où ses travaux de psychologue montrent que les choses se jouent, mais entre 3 et 7 ans. À ce moment-là, les psychologues observent que les garçons s'en vont vers une virilité et cette virilité les encourage à la compétition, à la force, à l'affirmation d'eux-mêmes, alors que les filles n'osent pas, se replient véritablement sur elles-mêmes et on les encourage à cela, la plupart du temps, parce que c'est féminin. Une femme accepte et elle acceptait. Il faut évidemment réfléchir avec ses psychologues et ses psychanalystes aussi à tous ces problèmes-là et les emmagasiner dans les attitudes vis-à-vis de l'école. Il ne s'agit pas de faire un catéchisme pour ces pauvres bambins de la maternelle, bien entendu, c'est pas ça. Mais c'est le jeu, J-E-U, comment ils jouent, comment ils sont ensemble, comment on se comporte avec eux, c'est effectivement très très important. Et il y a quelques années, il y a eu des bagarres autour de la notion de genre, au point qu'on a dit la théorie du genre c'est abominable, ça va enfermer les sexes dans leur rôle, etc., etc. Je crois que c'est très important justement, parce que ça amène à se dire que les rapports hommes-femmes sont des choses non pas inscrites dans une éternelle nature, mais construites avec l'éducation, avec le temps, avec des gestes quotidiens, avec le regard qu'on porte sur l'autre, avec l'amour. qu'est-ce que c'est que l'amour? Et comment partage-t-on un amour? Et comment dit-on un amour? Et ça, c'est évidemment aux individus de le découvrir. Mais la société, souvent, leur inflige des rôles qui ne sont pas acceptables.
Michel Perrault, les sorcières, la chasse aux sorcières comme outil de contrôle et de pouvoir, ça aussi, ça doit faire partie du long chemin des femmes, même si dans l'histoire gambienne de Matteo Caranta, il ne s'agit pas que de femmes, on l'a bien compris.
Bien sûr, c'est terrible tout ce que l'on vient d'entendre, mais des choses comme ça, on en entend presque tous les jours aujourd'hui. Hein. Mais pour les sorcières, je voudrais dire que à la grande époque de la Renaissance, les femmes ont été persécutées comme sorcières. Il y a eu à ce moment-là une véritable extermination des sorcières dont on fait l'histoire aujourd'hui et depuis quelque temps. Et là aussi, il y avait l'idée que, enfin c'est peut-être pas du tout la même chose en Gambie, que les femmes étaient irrationnelles et que par conséquent, pour les remettre à la raison, il fallait mieux les supprimer.
Un livre d'ailleurs de notre collaboratrice Céline Duchesnay vient de paraître sur les sorcières en coédition avec France Culture. Michel Perrault, l'autre chose que nous raconte cette histoire de Matteo Caranta, c'est peut-être à quel point la parole, quand elle se libère, fait du bien. Pas toujours, hein. Bien sûr, faut peut-être pas l'ériger en règle générale, mais quand même les bienfaits, les vertus de la parole et de la sortie du silence. C'est précisément ce que vous montrez, puisque vous montrez à quel point dans votre chemin des femmes, qui ne concerne donc pas que les femmes, mais aussi les prisons, mais aussi les ouvriers, qui sont les trois grandes questions que vous avez abordées dans votre travail d'historienne, vous montrez quand même à quel point, tout au long de l'histoire, la voix des femmes a été étouffée, empêchée, assujettie. C'est peut-être plus vrai aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui fait que c'est un moment historique, ce qu'on vit.
Oui, je pense que vous avez entièrement raison. Cette parole publique des femmes n'était pas légitime. Une femme en public est toujours déplacée.
Ça, c'est ce que disait Pythagore.
Voilà, Pythagore. Et les autres philosophes répétaient ça à l'envi. Et cette parole publique maintenant, elle se dit, elle s'exprime, on l'écoute. On l'écoute dans le public. Et on l'écoute même au pouvoir. Le Grenelle de l'environnement, c'est quand même une écoute des femmes et des femmes sur leur corps et sur les violences qu'elles subissent. Donc oui, je crois que d'une certaine manière, nous vivons un moment historique.
Peut-être y a-t-il un lien, quand même, un fil conducteur dans votre œuvre, Michel Perrault, puisque dans ce chemin des femmes, qui est une sorte d'itinéraire intellectuel hein, pour vous, vous montrez aussi à quel point le sujet central, finalement, c'est ces zones de silence. Précisément, c'est ces zones d'ombre à travers des vies que vous qualifiez d'ordinaires, mais qui font l'histoire. Finalement, vous vous êtes intéressé aux invisibles, aux inaudibles d'une certaine façon.
Je me suis intéressé à la nuit. Bien que j'ai très peur du noir, j'ai été très intéressé par tout ce qu'on ne voit pas, qui est là, et qui en réalité fait l'histoire. Hein, et c'est ça qui m'a intéressé. Les ouvriers ne parlaient pas beaucoup, il fallait qu'ils fassent grève pour qu'on les entende. Les gens des prisons, encore plus, et aujourd'hui c'est bien la même chose. Et les femmes, c'était encore plus éclatant, parce que c'est tout un sexe entier qui n'était pas légitime, dont la parole n'était pas légitime et qui par conséquent était réduite au murmure. Les femmes ont murmuré dans le noir pendant longtemps et maintenant elles parlent dans la clarté du jour et de Paris.
D'où vient cet attrait, Michel Perrault? Vous écrivez que c'était un choix scientifique, idéologique et éthique.
Tout ça, la science, parce que j'ai été formée par des gens qui croyaient à la science et que moi aussi j'ai voulu participer et par conséquent faire des choses sérieuses, hein, faire reculer le non-savoir en quelque sorte. Éthique, oui, bien sûr, parce que il y a une injustice derrière tous ces silences. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Et par conséquent, être dans le camp des injustes, légitimer les silences, ça ne me plaisait pas, j'avais envie de passer de l'autre côté.
Et les combats doivent être menés ensemble, en même temps. La France est en ébullition en ce moment, on appelle à une grève à partir du 5 décembre contre les réformes des retraites. Les femmes et les hommes manifestent aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. Tout le monde est dans la rue, tout ça doit être mené ensemble selon vous?
c'est collectif. Il ne peut pas. L'action individuelle est très très importante. J'y crois beaucoup dans la vie de chacun. Mais il y a un moment donné où il faut se rejoindre. Hein. Et par conséquent, alors je ne sais pas du tout parler de confluence des luttes. Je n'en sais vraiment rien. J'en suis même pas tellement certaine. Mais peu importe. Les gens se prennent en main et c'est légitime qu'ils se prennent en main et disent nous. Et pour les femmes, c'est très important.
Le livre « Le chemin des femmes », Michel Perrault, s'ouvre sur un chapitre qui est intitulé « L'ère du temps ». J'aimerais vous demander ce que vous pensez de cette ère du temps aujourd'hui.
Alors, l'ère du temps, j'ai appelé ce chapitre-là il y a bien longtemps, puisque c'était pour un essai d'ego histoire que m'avait demandé Pierre Nora. C'était surtout presque par humilité que j'ai employé ce terme. Parce que je pense que je suis sensible à l'ère du temps, que c'est une bonne et parfois une mauvaise chose. On peut se laisser façonner par l'ère du temps. On peut n'être qu'une espèce de passoire qui traduit l'ère du temps. D'un autre côté, ne pas y être sensible, ce serait s'enfermer dans sa petite forteresse intime et ne rien entendre à l'extérieur. Donc je crois que l'ère du temps dit quelque chose, porte quelque chose, et que les scientifiques et les autres, naturellement, c'est ça qu'ils doivent essayer de saisir. Et en tant qu'historienne, l'historien, l'historienne, c'est le changement qui l'intéresse. Qu'est-ce qui change? Pourquoi ça change? Comment ça change? Qu'est-ce que nous disent ces mouvements que nous ne comprenons pas? Parce que j'ajoute que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre mon temps, hein, et que je suis désarçonnée par ce qui se passe, que je ne comprends pas bien ce qui se défait en ce moment et qui peut-être va se faire, mais par conséquent c'est l'ère du temps et il doit nous retenir.
Peut-être est-on dans un moment de transition profond, de mutation, mutation des conditions de travail, entrée dans un monde numérique qu'on ne connaît pas encore ou dont on ne maîtrise peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. La société dans son ensemble ne se délite pas forcément parce qu'elle est en train de se reconstruire, mais c'est la mutation ou la désagrégation pour vous qui domine, Michel Perrault?
Oui, oui, nous sommes dans une période de mutation profonde. Ceci dit, il y en a eu d'autres, des périodes de mutation, hein, il faut pas. Bon, mais.
Ça rassure de savoir qu'il y en a eu d'autres?
Oui.
Ça veut dire qu'on les passe et qu'on entre dans autre chose. Oui, c'est pas la fin, quoi.
C'est absolument, absolument. L'histoire ne se répète jamais, mais elle a des schémas, si l'on peut dire, analogue malgré tout. Et c'est vrai qu'il y a des moments où les choses s'accélèrent. Et ce qui s'accélère beaucoup, c'est les moyens de communication. Je pense que notre époque est marquée par ça. Tout va beaucoup plus vite, les paroles vont vite, les événements se succèdent les uns aux autres au point que celui d'hier est dévalorisé par rapport à celui d'aujourd'hui, ce qui est générateur d'oubli. On va oublier ce qu'on a dit hier, ce qu'on a promis peut-être hier. Oui, on est dans une période de mutation absolument considérable. Le travail, vous l'avez dit, les rapports entre les hommes et les femmes, le rapport avec la nature, avec cette grande conscience que nous prenons de la finitude du monde habité. Hein, et qui nous rend tellement sensibles à l'univers. Hein. C'est pour ça qu'aussi nous sommes très attirés par ce que les astrophysiciens nous disent sur les trous noirs. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les trous noirs. Hein. Ces trous noirs dont on ne sait même pas exactement ce qu'ils sont dans l'univers et ce qu'on risque d'y trouver. Nous avons des trous noirs dans notre société d'aujourd'hui et évidemment, nous essayons de les comprendre.
Michel Perrault, il y a une phrase que j'aimerais que vous commentiez, que j'ai relevée dans Le chemin des femmes. Vous écrivez « À l'été 36, j'ai eu pour la première fois le sentiment d'appartenir au camp des injustes. » Et j'y pense parce que certains aujourd'hui appellent à un front populaire écologique et vous avez parlé de la nature et de ce combat pour la nature. Ça veut dire quoi cette phrase « J'ai eu pour la première fois à l'été 36 le sentiment d'appartenir au camp des injustes »
J'étais toute petite, j'avais 6 ans, quelque chose, 5-6 ans, mais j'habitais Paris, le cœur de Paris, le sentier, il y avait des ateliers de femmes qui faisaient grève, qui chantaient, qui avaient des banderoles et J'ai été extrêmement frappée par tout ça, d'autant plus que dans mon milieu très ouvert pourtant, il y avait une certaine crainte, j'étais quand même dans un milieu bourgeois. Et par conséquent, le Front Populaire, qu'est-ce que ça allait donner, hein? Bon, et là, je me sentais tiraillée entre mes parents que j'adorais et que je voyais inquiets, et cette rue, la rue Boulevard Sébastopol, la rue de Strasbourg, le quartier des Halles, qui était bruissant de revendications et de manifestations. Station, hein, que j'ai véritablement vu comme ça. Et de là est né quelque chose que naturellement je n'ai vraiment formulé que plus tard. À ce moment-là, je ne le faisais pas vraiment. Mais assez rapidement, oui, j'ai eu ce sentiment que j'appartenais à un peut-être bien un camp des injustes. Quand je voyais dans ma famille, pas mes parents, mais une famille provinciale, qu'on disait, mais ça y est, les ouvriers, maintenant, ils vont aller sur les plages. Ils vont prendre des vacances. J'étais très choquée par ça. J'étais très choquée. Pourquoi est-ce que tout le monde n'aurait pas droit d'aller sur les plages et d'avoir des vacances? C'était ça, véritablement, ça me dérangeait. Ça me dérangeait beaucoup. D'autant plus que à Paris, comme à la campagne où j'allais souvent, j'avais des amis, des petites amies, des petites copines, comme on disait, qui étaient tout à fait populaires. Et par conséquent, je voyais pas la différence.